Jacques les Rambaud, première partie. Brusquement, il arriva pour une permission de 7 jours. Il n'avait pas prévenu. Dans l'escalier, il s'arrêta. Ses jambes étaient lourdes. Bien qu'il semblât plus robuste, il se fatiguait vite et il était ému. Il reprit son souffle et monta. Au coup de sonnette, sa mère revint ouvrir. Elle cria de saisissement. Clérambault, qui errait à travers l'appartement, dans l'ennui et l'attente éternelle, accourut en clamant. Ce fut un beau tapage. Après quelques minutes, on fit trêve aux étreintes et au langage inarticulé. Poussé vers une fenêtre, assis bien en lumière, Maxime fut livré à l'inspection de leurs regards ravis. Il s'extasiait sur son teint, ses joues pleines, son air de bonne santé. Son père, lui ouvrant les bras, l'appela « mon héros ». Et Maxime, les mains crispées, sentit brusquement l'impossibilité de parler. À table, on le couvait des yeux, on buvait ses mots. Il ne dit presque rien. L'exaltation des siens l'avait arrêté net dans son premier élan. Heureusement, il ne s'en apercevait pas. Ils attribuaient son silence à la fatigue et aussi à la faim. Clérambault parlait d'ailleurs pour deux. Il racontait à Maxime la vie des tranchées. La bonne Madame Pauline était devenue une Cornélie de Plutarque. Maxime les regardait, mangeait, les regardait. Un fossé était entre eux. À la fin du repas, quand, rentré dans le cabinet du père, ils le virent installé dans un fauteuil et fumant, il fallut bien en venir à satisfaire l'attente de ces pauvres gens. Il commença donc à décrire sobrement l'emploi de ses journées. Il mettait une pudeur à écarter de son récit tout mot exagéré et les images tragiques. Ils écoutaient, palpitant d'attente. Ils attendaient toujours quand il avait fini. Alors, ce fut de leur part un assaut de questions. Maxime y répondait, en quelques mots, vite éteint. Clérambault essaya de réveiller son gaillard, lui poussa jovialement quelques bottes. « Voyons, on raconte un peu, un de vos engagements, ça devait être beau. Cette joie, cette foi sacrée, Christi, je voudrais voir cela, je voudrais être à ta place. » Maxime répondit, « Pour voir toutes ces belles choses, tu es mieux à la tienne. » Depuis qu'il était dans la tranchée, il n'avait pas vu un combat. À peine un Allemand. Il avait vu la boue et il avait vu l'eau. Mais il ne le croyait pas. Il pensait qu'il parlait ainsi par esprit contrariant, selon son habitude d'enfant. « Farceur !» dit Clérambault avec un bon rire. « Alors, qu'est-ce que vous faites tout le jour dans vos tranchées ?»« On se gare, on tue le temps. C'est le plus grand ennemi. » Clérambault lui appliqua sur l'épaule une tape amicale. « Vous en tuez aussi d'autres !» Maxime s'écarta, vit le bon regard curieux de son père, de sa mère, et dit « Non, non, parlons d'autre chose. » Et, après un moment, « Voulez-vous me faire un plaisir ? Ne me questionnez plus aujourd'hui. » Ils acquiescèrent, étonnés. Ils jugèrent que son état de fatigue avait besoin de ménagement, et ils furent aux petits soins. Mais Clérambault, à tout instant, repartait malgré lui dans des apostrophes qui quêtaient une approbation. Le mot de liberté ponctuait ses tirades. Maxime avait un pâle sourire et observait Rosine. L'attitude de la jeune fille était singulière. Quand son frère était entré, elle s'était jetée à son cou. Mais depuis, elle se tenait sur la réserve, on eût dit à distance. Elle n'avait pas pris part aux questions des parents. Bien loin de provoquer les confidences de Maxime, elle paraissait les craindre. L'insistance de Clérambeau la mettait à la gêne. La peur de ce que son frère aurait pu dire se trahissait à des mouvements imperceptibles ou de fugitifs regards que seul saisissait Maxime. Il éprouvait la même gêne. Il évitait de se trouver seul avec elle. Cependant, il n'avait jamais été plus rapproché d'esprit. Mais il leur en eût trop coûté de se dire pourquoi. Maxime dut se laisser exhiber aux connaissances du quartier. On le promena dans Paris pour le distraire. Malgré ses robes de deuil, la ville avait repris son visage riant. Les misères et les peines se cachaient au foyer et dans le fond des cœurs fiers. Mais l'éternelle foire, dans les rues, dans la presse, étalait son masque satisfait. Le peuple des cafés et des salons de thé était prêt à tenir 20 ans s'il l'eût fallu. Maxime, avec les siens, assise à une petite table de pâtisserie, dans le joyeux papotage et l'arôme des femmes, voyait la tranchée où il venait d'être bombardé, 26 jours de suite, sans pouvoir bouger de la fosse gluante et gorgée de cadavres qui servaient de muraille. La main de sa mère se posa sur la sienne. Il s'éveilla, vit les yeux affectueux des siens qui l'interrogeaient. Il se reprocha d'inquiéter ces pauvres gens, et, souriant, il se mit à lorgner et à parler gaiement. Son entrain de grand gamin était revenu. Le visage de Clérambeau, sur lequel avait passé une ombre, s'éclaira de nouveau, et son regard, naïvement, remerciait Maxime. Il n'était pourtant pas au bout de ses alertes. Au sortir de la pâtisserie, il s'appuyait sur le bras de son fils, ils se croisèrent dans la rue avec un enterrement militaire. Il y avait des couronnes, des uniformes, un vieux de l'Institut, son épée dans les jambes, et des instruments de cuivre qui ronflaient une lamentation héroïque. La foule se rangeait avec recueillement, et Clérambeau, s'arrêtant, se découvrit avec emphase. Sa main gauche serrait plus fortement le bras de Maxime. Il le sentit tressaillir et, regardant son fils, il lui trouva un air étrange. Il crut que Maxime était ému et voulut l'entraîner. Mais Maxime ne bougeait pas. Maxime était ahuri. Un mort, pensait-il. Tout ça pour un mort. Mais là-bas, on marche dessus. 500 morts au tableau, c'est la ration normale. Il eut un mauvais petit rire. Clérambeau, effrayé, le tira par le bras. « Viens, » dit-il. Ils s'éloignèrent. « Si on voyait, » pensait Maxime, « si ces gens voyaient, toute leur société craquerait. Mais ils ne verront jamais, ils ne veulent pas voir. » Et ses yeux, cruellement aigus, découvrirent tout à coup autour de lui l'ennemi. L'inconscience de ce monde, la bêtise, l'égoïsme, le luxe, le « je m'en fous », l'immonde profit de la guerre, la jouissance de la guerre, le mensonge jusqu'aux racines. Les abrités, les embusqués, les policiers, les obusiers, avec leurs autos insolentes qui ressemblent à des canons. Et leurs femmes, aux beautés, au museau saignant, ses gueules de bonbons féroces. Ils sont contents. Tout va bien. Ça va durer. Ça dure. Une moitié de l'humanité mange l'autre. Ils rentrèrent. Le soir, après dîner, Clérambault brûlait de lire à Maxime un poème qu'il venait d'écrire. L'intention en était touchante et un peu ridicule. Dans son amour pour son fils, il tâchait d'être, en esprit au moins, son compagnon de gloire et de peine. Et il avait décrit, de loin, l'aube dans la tranchée. Deux fois, il se leva pour chercher le manuscrit. Mais quand il tenait les feuilles, une pudeur le paralysait. Il se rassit, les mains vides. Les jours passaient. Il se sentait uni étroitement par les liens du corps, mais les âmes ne parvenaient point à se toucher. Aucun ne voulait le reconnaître et chacun le savait. Une tristesse était entre eux. Ils se refusaient à en voir la vraie cause. Ils aimaient mieux l'attribuer à l'approche du départ. De temps en temps, le père, la mère, faisaient une nouvelle tentative pour rouvrir la source d'intimité. À chaque fois, c'était la même déconvenue. Maxime s'apercevait qu'il n'avait plus aucun moyen de communiquer avec eux, avec personne de l'arrière. C'était des mondes différents. S'entendrait-on jamais plus? Pourtant, il les comprenait. Lui-même avait subi, naguère, l'influence qui pesait sur eux. Il ne s'était dégrisé que là-bas, au contact de la souffrance et de la mort réelle. Mais justement, parce qu'il avait été atteint, il savait l'impossibilité de guérir les autres avec des raisonnements. Alors il se taisait, laissait parler, souriait vaguement, opinait sans écouter. Les préoccupations de l'arrière, les criailleries des journaux, les questions de personnes, et quelles personnes, de vieux polichinelles, des politiciens tarés et avachis, les hâbleries patriotardes des stratèges de l'écritoire, les inquiétudes au sujet du pain rassis ou de la carte de sucre ou des jours de pâtisserie fermée, lui inspiraient un dégoût, un ennui, une pitié sans fond pour cette race de l'arrière. Elle lui était étrangère. Il se renferma dans un silence énigmatique, souriant et sombre. Il n'en sortait que par accès, quand il pensait au peu d'instants qu'il lui restait à partager avec ces pauvres gens qu'il l'aimait. Alors il se mettait à causer avec animation, n'importe de quoi. L'important était de donner de la voix, puisque l'on ne pouvait plus donner sa pensée. Et naturellement, on retombait sur les lieux communs du jour. Les questions générales, politiques, militaires, tenaient la première place. Ils auraient pu aussi bien lire tout haut leur journal. L'écrasement des barbares, le triomphe du droit, remplissaient les discours, la pensée de Clérambault. Maxime servait la messe et disait, au temps d'arrêt, le cum spiritu uo. Mais tous deux attendaient que l'autre commençât à parler. Ils attendirent si longtemps que le jour de la séparation vint. Peu avant son départ, Maxime entra dans le cabinet de son père. Il était résolu à s'expliquer. « Papa, es-tu bien sûr ?» Le trouble qui se peignit sur le visage de Clérambault l'empêcha de continuer. Il eut pitié. Il demanda si son père était bien sûr de l'heure du départ. Clérambault accueillit la fin de la question avec un soulagement trop visible. Et quand il eut donné les renseignements, que Maxime n'écoutait pas, il enfourcha de nouveau son dada oratoire et se lança dans ses habituelles déclamations idéalistes. Maxime, découragé, se tut. Pendant la dernière heure, ils ne se dirent que des riens. Tous sentaient, sauf la mère, qu'il taisait l'essentiel. Des mots allègres et confiants, une excitation apparente. Dans le cœur, un gémissement. « mon Dieu, pourquoi nous avez-vous abandonnés ?» Maxime s'en alla, soulagé de retourner au front. Le fossé qu'il venait de constater entre l'avant et l'arrière lui paraissait plus profond que celui des tranchées. Et le plus meurtrier n'était pas les canons, mais les idées. Penché à la fenêtre du wagon qui partait, il suivit du regard les visages émus des siens qui s'éloignaient et il pensait « Pauvres gens, vous êtes leurs victimes et nous sommes les vôtres. » Le lendemain de son retour au front, se déclencha la grande offensive du printemps, que les journaux bavards annonçaient à l'ennemi depuis plusieurs semaines. On en avait nourri l'espoir de la nation, durant le morne hiver d'attente et de mort immobile. Elle fut soulevée toute par un frémissement de joie impatiente. Elle était sûre de la victoire et lui criait « Enfin !» Les premières nouvelles semblèrent lui donner raison. Elle ne faisait mention, comme de juste, que des pertes de l'ennemi. Les visages rayonnaient. Les parents dont les fils, les femmes dont les maris étaient là-bas se sentaient glorieux que leur chair et leur amour prit part à l'agape sanglante. Dans leur exaltation, à peine s'arrêtaient-ils à la pensée que le leur put en être victime. Et la fièvre était telle que Clérambeau, père affectueux, aimant, inquiet pour ceux qu'il aimait, en vint à craindre que son fils ne fût pas rentré à temps pour la fête. Il voulait qu'il y fût. Ses vœux ardents l'y poussaient, le jetaient dans le gouffre. Il en faisait le sacrifice. Il disposait de lui et de sa vie, sans s'inquiéter si la volonté de son fils était d'accord. Il ne s'appartenait plus. Il n'eût pu concevoir que quiconque était sien s'appartint davantage. L'obscure volonté de la fourmilière avait tout dévoré. Pourtant, un reste d'habitude de l'esprit qui s'analyse lui faisait, à l'improviste, retrouver quelques traces de son ancienne nature. Comme un nerf sensible qu'on touche, un coup sourd, une ombre de douleur. Elle passe, on la nie. Au bout de 3 semaines, l'offensive épuisée piétinait sur les mêmes kilomètres de charnier. Les journaux commençaient à distraire l'attention, en lui offrant ailleurs une nouvelle piste. Maxime n'avait pas écrit depuis qu'il était parti. On se cherchait les raisons de patience ordinaire que fournit l'esprit complaisant. Mais le cœur n'y croit pas. 8 jours encore passèrent. Entre eux, chacun des 3 affectait l'assurance. Mais la nuit, chacun seul dans sa chambre, l'âme criait d'angoisse. Et, tout le long des heures, l'oreille était tendue, épiait chaque pas qui montait l'escalier. Les nerfs près de se rompre, au tintement de la sonnette, au frôlement d'une main, qui passait près de la porte. les premières nouvelles officielles des pertes commençaient d'arriver. Dans plusieurs familles amies des Clérambault, on connaissait déjà ses morts et ses blessés. Ceux qui avaient tout perdu enviaient ceux dont les aimés, saignants, mutilés peut-être, leur seraient du moins rendus. Plusieurs s'enveloppaient de leur mort comme de la nuit. Pour eux, la guerre était finie, la vie était finie. Mais chez d'autres, persistait étrangement l'exaltation du début. Clérambault vit une mère que son patriotisme et son deuil enfiévraient au point de se réjouir presque de la mort de son fils. Elle disait, avec une joie violente et concentrée, « J'ai tout donné, j'ai tout donné !» Telle, dans l'obsession de la dernière seconde, avant de disparaître, celle qui se noie par amour avec son bien-aimé. Mais Clérambault, plus faible, ou s'éveillant du vertige, pensait « Moi aussi j'ai tout donné, même ce qui ne m'appartenait point. » Il s'adressa à l'autorité militaire. On ne savait rien encore. Une huitaine après, vint la nouvelle que le sergent Clérambault Maxime était classé comme disparu depuis la nuit du 27 au 28 du mois passé. Au bureau de Paris, Clérambault ne put obtenir aucun détail de plus. Il partit pour Genève, visita la Croix-Rouge, l'agence des prisonniers, n'apprit rien, se lança sur des pistes, obtint la permission d'interroger dans des hôpitaux ou des dépôts de l'arrière des camarades de son fils qui donnaient des renseignements contradictoires. L'un le disait prisonnier, l'autre l'avait vu mort. Puis, tous deux, le lendemain, convenaient qu'ils s'étaient trompés. Oh, torture ! Dieu bourreau ! Revint après 10 jours de ce chemin de croix, vieilli, cassé, épuisé. Il retrouva sa femme dans un paroxysme de douleur bruyante, qui, chez cette créature bonasse, s'était tournée en haine furieuse contre l'ennemi. Elle criait vengeance. Pour la première fois, Clérambault n'y répondit pas. Il ne lui restait plus assez de force pour haïr, juste assez pour souffrir. Il s'enferma dans sa chambre. Durant son pèlerinage affreux de 10 jours, à peine s'était-il trouvé en face de sa pensée. Une seule idée l'hypnotisait, nuit et jour. Comme un chien sur une piste, plus vite, allez plus vite. La lenteur des voitures, des trains le consumait. Il lui était arrivé, après avoir retenu une chambre pour la nuit, de repartir le soir même, sans vouloir se reposer. Cette fièvre de hâte et d'attente dévorait tout. Elle rendait impossible, et c'était son salut, tout raisonnement suivi. Mais à présent, la course était brisée, et l'esprit se retrouvait, hors d'haleine, expirant. Clérambault avait maintenant la certitude que Maxime était mort. Il ne l'avait pas dit à sa femme. Il lui avait eu certains renseignements qui enlevaient l'espoir. Elle était de ceux qui ont un besoin vital de conserver, même contre toute raison, une lueur de mensonge qui les leurre, jusqu'à ce que le gros du flot de la douleur se soit épuisé. Et peut-être Clérambault avait-il été de cela, lui aussi. Mais il n'en était plus, car il voyait où ce leurre l'avait mené. Il ne jugeait pas encore, il n'essayait pas de juger. Il gisait dans sa nuit. Et, trop faible pour se relever, pour tâtonner autour, il était comme quelqu'un qui, après une chute, remue son corps meurtri. Reprend, à chaque douleur, conscience de sa vie et tâche de comprendre ce qui est arrivé. Le gouffre stupide de cette mort le fascinait. Ce bel enfant qu'on avait eu tant de joie, tant de peine à avoir, à élever, toute cette richesse d'espoirs en fleurs, ce petit univers sans prix qu'est un jeune homme, cet arbre de Jessé, ces siècles d'avenir, et tout cela détruit en une heure. Pourquoi? Pourquoi? Il fallait se persuader au moins que c'était pour quelque chose de grand et de nécessaire. Clérambeau s'accrocha à cette bouée avec désespoir pendant les jours et les nuits qui suivirent. Si ses doigts se desserraient, il coulerait à pic. Plus durement encore, il affirma la sainteté de la cause. Il se refusait d'ailleurs à la discuter. Mais ses doigts peu à peu glissaient. Chaque mouvement l'enfonçait, car chaque attestation nouvelle de sa justice et de son droit faisait surgir de la conscience une voix qui disait « Quand bien même vous auriez 20 000 fois plus raison dans la lutte, votre raison affirmée vaut-elle les désastres dont il la faut payer? Votre justice veut-elle que des millions d'innocents tombent, rançon des iniquités et des erreurs des autres? Le crime se lave-t-il par le crime, le meurtre par le meurtre? Et fallait-il que vos fils en fussent non seulement victimes, mais complices, et fussent assassinés, et fussent des assassins? » Il revit la dernière visite de son fils, leurs derniers entretiens, et il les rumina. Que de choses il comprenait maintenant, qu'il n'avait pas comprises. Les silences de Maxime, le reproche de ses yeux. Le pire de tout fut lorsqu'il reconnut qu'il les avait comprises, déjà quand son fils était là, mais qu'il n'avait pas voulu en convenir. Et cette découverte, que depuis quelques semaines il sentait peser sur lui comme une menace, et cette découverte du mensonge intérieur l'écrasa. Rosine Clérambeau, jusqu'à la crise actuelle, paraissait effacée. Sa vie intérieure était ignorée des autres et presque d'elle-même. À peine son père en avait-il une lueur. Elle avait vécu sous l'aile de la chaude, égoïste, asphyxiante affection de famille. Elle n'avait guère d'amis, de camarades de son âge. Les parents s'interposaient entre elle et le monde extérieur. Elle s'était habituée à pousser dans leur ombre. Et si, devenue adolescente, elle aspirait à s'en évader, elle n'osait pas, elle ne savait pas. Elle était gênée dès qu'elle sortait du cercle de famille. Ses mouvements étaient paralysés, elle pouvait à peine parler. On la jugeait insignifiante. Elle le savait et en souffrait, car elle avait de l'amour-propre. Alors elle sortait le moins possible et restait dans son milieu, où elle était simple, naturelle, silencieuse. Ce silence ne venait pas d'une torpeur de pensée, mais du bavardage des autres. Le père, la mère, le frère étaient exubérants. La petite personne se renfermait par réaction. Mais elle parlait en elle. Elle était blonde, grande, mince, les formes d'un adolescent, de jolis cheveux dont les mèches se sauvaient sur les joues, la bouche grande et sérieuse, la lèvre inférieure un peu gonflée aux commissures, les yeux larges, calmes et vagues, les sourcils fins et bien marqués, un menton gracieux. Joli cou, poitrine maigre, pas de hanches. Les mains un peu rouges et grandes, dont les veines étaient gonflées. Rougissant pour un rien. Le charme de la jeunesse était dans le front et le menton. Les yeux interrogés, rêvés, livraient peu. Son père avait pour elle une prédilection, comme la mère pour le fils. Des affinités étaient entre eux. Sans y penser, Clérambault n'avait cessé d'accaparer sa fille, de l'entourer, depuis l'enfance, de son affection absorbante. Il avait fait en partie son éducation. Avec la naïveté, parfois un peu choquante, de l'artiste, il l'avait prise pour confidente de sa vie intérieure. Il y était amené par son moi débordant et par le peu d'écho qu'il trouvait en sa femme. Cette bonne personne qui était, comme on dit, à ses pieds, y restait installée. Elle disait oui à tout ce qu'il disait, l'admirait de confiance, mais ne le comprenait pas, et ne s'en apercevait même pas. Car l'essentiel n'était pas, pour elle, la pensée de son mari, mais son mari, sa santé, son bien-être, son confort, sa nourriture, sa vêture. L'honnête Clérambault, plein de reconnaissance, ne jugeait pas sa femme, pas plus que Rosine ne jugeait sa mère. Mais leur instinct, à tous deux, savait à quoi s'en tenir et les rapprocher l'un de l'autre par un secret lien. Et Clérambault ne s'apercevait pas qu'il s'était fait de sa fille sa vraie femme, d'esprit et de cœur. Il n'avait commencé à en avoir le soupçon que dans les derniers temps où la guerre sembla rompre l'accord tacite qui régnait entre eux, et où l'assentiment de Rosine, comme un vœu qui la liait, lui manqua tout à coup. Rosine savait les choses bien avant lui. Elle évitait d'en scruter le mystère. Le cœur n'a pas besoin, pour savoir, que l'esprit soit averti. Étranges et magnifiques mystères de l'amour qui unit les âmes. Il est indépendant des lois de la société et même de la nature. Mais bien peu d'êtres le savent, et bien moins encore osent le révéler. Ils ont peur de la grossièreté du monde, qui veut des jugements sommaires et s'en tient au sens épais du langage traditionnel. Dans cette langue convenue, volontairement inexacte, par simplification sociale, les mots se gardent bien d'exprimer, en les dévoilant, les nuances vivantes de la multiple réalité. Ils l'emprisonnent, ils l'enrégimentent, ils la codifient. Ils la mettent au service de la raison elle-même domestiquée, de la raison qui ne jaillit pas des profondeurs de l'esprit, mais des nappes diffuses et emmurées, comme un bassin de Versailles dans les cadres de la société constituée. En ce vocabulaire quasi juridique, l'amour est lié au sexe, à l'âge, aux classes de la société. Et selon qu'il se plie aux conditions requises, il est ou non naturel, il est légitime ou non. Mais ce n'est là qu'un filet d'eau capté des sources profondes de l'amour. L'immense amour, qui est la loi de gravitation qui meut les mondes, ne se soucie pas des cadres que nous lui traçons. Il s'accomplit entre des âmes que tout éloigne, dans l'espace et dans l'heure. Par-dessus les siècles, il unit les pensées des vivants et des morts. Il noue d'étroits et chastes liens entre les jeunes et les vieux cœurs. Il fait que l'ami est plus proche que l'ami. Il fait que souvent l'âme de l'enfant est plus proche de celle du vieillard. Que, dans toute leur vie, ils ne trouveront peut-être femme de compagnon ou homme de compagne. Entre pères et enfants, ces liens existent parfois sans qu'ils en aient conscience. Et le siècle, comme disaient nos vieux, compte si peu en face de l'amour éternel qu'il arrive qu'entre pères et enfants, les rapports soient intervertis et que ce ne soit pas le plus jeune qui des deux soit l'enfant. Que de fils éprouvent pieusement un amour paternel pour la vieille maman. Et ne nous arrive-t-il pas de nous sentir très humbles et tout petits devant les yeux d'un enfant? Le Bambino de Botticelli pose sur la Vierge Candide son regard lourd d'une expérience douloureuse qui s'ignore et vieille comme le monde. L'affection de Clérambeau et de Rosine était de cette essence, auguste, religieuse, où la raison n'a point accès. C'est pourquoi, dans les profondeurs de la mer agitée, loin au-dessous des troubles et des conflits de conscience que la guerre déchaînait, un drame intime se déroulait, sans geste, presque sans mot, entre ces deux âmes, unies par un amour sacré. Ce sentiment ignoré expliquait la finesse de leur réaction mutuelle. Au début, le muet éloignement de Rosine, déçue dans son affection, froissée dans son culte secret, par l'attitude de son père que la guerre égarait, et s'écartant de lui comme une petite statue antique chastement drapée. Aussitôt, l'inquiétude de Clérambeau, dont la sensibilité aiguisée par la tendresse avait sur le champ perçu ce noli me tangere. Il s'en était suivi, pendant la période qui avait précédé la mort de Maxime, une brouille inexprimée entre le père et la fille. On n'oserait parler, les mots sont si grossiers, de dépit amoureux, au sens le plus épuré. Ce désaccord intime, dont aucune parole ne les eût fait convenir, leur était à tous deux une souffrance, troublait la jeune fille, irritait Clérambeau. Il en savait la cause, et son orgueil se refusait d'abord à la reconnaître. Peu à peu, il n'était plus très loin d'avouer que Rosine avait raison. Il eût voulu s'humilier, mais la langue restait liée par une fausse honte. Ainsi le malentendu des esprits s'aggravait, quand les cœurs s'imploraient de céder. Dans le désarroi qui suivit la mort de Maxime, cette supplication se fit plus pressante sur l'âme, moins forte pour résister. Un jour qu'ils se trouvaient tous les trois au dîner du soir, c'était le seul moment où ils fussent réunis, car chacun s'isolait, Clérambeau prostré dans son fauteuil, Madame Clérambeau toujours agitée sans but, et Rosine, tout le jour absente, occupée à des œuvres, Clérambeau entendit sa femme qui interpellait violemment Rosine. Celle-ci parlait de soigner des blessés ennemis, et Madame Clérambeau s'en indignait, comme d'un crime. Elle en appela au jugement de son mari. Clérambeau, dont les yeux là, vagues et douloureux, commençait à comprendre, regarda Rosine qui se taisait, le front baissé, attendant sa réponse. Et il dit « Ma petite a raison ». Rosine rougit de saisissement. Elle ne s'y attendait pas. Elle leva vers lui ses yeux qui le remerciaient. Leur regard semblait dire « Enfin, je t'ai retrouvé !» Après le bref repas, tous trois se séparèrent. Chacun se rongeait à part. Devant sa table de travail, Clérambeau, la figure enfoncée dans ses mains, pleurait. Le regard de sa fille avait détendu son cœur, raidi de douleur. C'était son âme perdue, depuis des mois étouffée, la même qu'avant la guerre, qu'il avait retrouvée, et elle le regardait. Il essuya ses larmes, écouta à la porte. sa femme, comme tous les soirs dans la chambre de Maxime, enfermée à double tour, dérangeait et rangeait le linge, les effets du mort. Il entra dans la pièce où Rosine était seule, assise près de la fenêtre et cousée. Elle était absorbée dans ses pensées. Elle ne l'entendit venir que lorsqu'il était là, devant elle. Il appuyait contre elle sa tête grisonnante et disait « Ma petite fille !» Alors son cœur se fondit aussi. Elle laissa tomber son ouvrage, elle prit entre ses mains la vieille tête aux cheveux rudes et dit, mêlant ses larmes à celles qu'elle voyait couler, « Mon cher papa !» Ni l'un ni l'autre n'avait besoin de demander, d'expliquer pourquoi il était là. Après un long silence, quand il eut repris son calme, il dit, la regardant, « Il me semble que je m'éveille d'un égarement affreux. » Elle lui caressait les cheveux, sans parler. « Mais tu veillais sur moi, n'est-ce pas? Je l'ai bien vu. Tu avais de la peine. » Elle fit oui de la tête, sans oser le regarder. Il lui baisa les mains, se releva et dit « Mon bon ange, tu m'as sauvé. » Il rentra dans sa chambre. Elle resta sans bouger, transpercée d'émotion. Longtemps elle fut ainsi, tête baissée, les mains jointes sur ses genoux. Les flots de sentiments qui se heurtaient en elle coupaient sa respiration. Elle avait le cœur gros d'amour, de bonheur et de honte. L'humilité de son père la bouleversait. Et soudain, un élan de tendresse et de piété passionnée la délia de la paralysie qui tenait ses membres et son âme ligotée, tendit ses bras vers l'absent et la fit se jeter confuse au pied de son lit, remerciant Dieu, le priant qu'il gardât toute la douleur pour elle et qu'il donnât le bonheur à celui qu'elle aimait. Mais le Dieu qu'elle priait ne tint pas compte de sa recommandation. Car ce fut sur les yeux de la jeune fille qu'il versa le bon sommeil d'oubli. Mais Clérambeau devait gravir jusqu'au bout son calvaire. Dans la nuit de sa chambre, sa lampe éteinte, Clérambeau regardait en lui. Il était décidé à pénétrer au fond de son âme menteuse et peureuse qui fuyait. La main de sa fille, dont il sentait encore la fraîcheur sur son front, avait effacé ses hésitations. Il était décidé à faire face au monstre vérité. Dût-il être lacéré par ses griffes qui ne lâchent plus une fois qu'elles ont étreint. Avec angoisse, mais d'une main courageuse, il commença d'arracher par lambeaux saignants l'enveloppe de préjugés mortels, de passions et d'idées étrangères à son âme qui la recouvraient tout entière. D'abord l'épaisse toison de la bête aux mille têtes, l'âme collective du troupeau. Il s'y était réfugié par peur et par lassitude. Elle tient chaud, on y étouffe, c'est un sale édredon. Quand on y est englouti, on ne peut plus faire un mouvement pour en sortir, et on ne le veut plus. On n'a plus à penser, on n'a plus à vouloir. On est à l'abri du froid, des responsabilités, paresse et lâcheté. Allons, écartons-la, par les fentes, aussitôt, entre le vent glacé. On se rejette en arrière, mais déjà cette bouffée a secoué l'engourdissement. L'énergie viciée se remet sur pied en trébuchant. Que va-t-elle trouver au dehors? N'importe, il faut voir. » Il vit d'abord le cœur soulevé de dégoût, ce qu'il n'eût pas voulu croire. Combien cette grâce toison s'était incrustée dans sa chair. Il reniflait en elle comme un relent lointain de la bête primitive, les sauvages instincts inavoués de la guerre, du meurtre, du sang répandu, de la viande palpitante que les mâchoires broient. La force élémentaire de la mort pour la vie. Au fond de l'être humain, l'abattoir dans la fosse, que la civilisation, au lieu de la combler, voile du brouillard de ses mensonges, et sur laquelle flotte la fade odeur de boucherie. Ce souffle infect acheva de dégriser Clérambeau. Il arracha avec horreur la peau de bête dont il était la proie. Ah, comme elle était lourde! Elle est à la fois chaude, soyeuse, belle, puante et sanglante. Elle est faite des instincts les plus bas et des plus hautes illusions. Aimer, se donner à tous, se sacrifier pour tous, n'être qu'un corps et qu'une âme, la patrie seule vivante. Mais qu'est-ce donc que cette patrie, cette seule vie, à laquelle on sacrifie non seulement sa vie, toutes les vies, mais sa conscience, toutes les consciences? Et qu'est-ce que cet amour aveugle, dont l'autre face de Janus aux yeux crevés est une aveugle haine? L'on a ôté mal à propos le nom de la raison à l'amour, dit Pascal, et on les a opposés sans un bon fondement, car l'amour et la raison n'est qu'une même chose. C'est une précipitation de pensée qui se porte d'un côté sans bien examiner tout. Mais c'est toujours une raison. Eh bien, examinons tout. Mais n'est-ce pas que cet amour, justement, n'est, pour une grande part, que la peur d'examiner tout, l'enfant qui, pour ne point voir l'ombre qui passe sur le mur, se renfonce la tête sous ses draps? La patrie, un temple hindou, des hommes, des monstres et des dieux. Qu'est-elle? La terre maternelle? La terre entière est notre mère à tous? La famille? Elle est ici et là, chez l'ennemi comme chez moi, et ne veut que la paix? Les pauvres, les travailleurs, les peuples? Ils sont des deux côtés, également misérables, également exploités. Les hommes de pensée? Ils ont un champ commun, et quant à leurs vanités et leurs rivalités, elles sont aussi ridicules au levant qu'au couchant. Le monde ne se bat point pour les querelles de Vadius et de Trissotin. L'État n'est pas la patrie. Seul crée la confusion ceux qui y ont profit. L'État est notre force, dont usent et dont abusent quelques hommes comme nous, qui ne valent pas mieux que nous, et qui souvent valent pis, dont nous ne sommes pas dupes, qu'en temps de paix nous jugeons librement. Mais que vienne la guerre, on leur laisse carte blanche. Ils peuvent faire appel aux plus vils instincts, étouffer tout contrôle, tuer toute liberté, tuer toute vérité, tuer toute humanité. Ils sont maîtres. Il faut serrer les rangs pour défendre l'honneur et les erreurs de ces mascaries vêtues des habits du maître. Nous sommes solidaires, dit-on. Terrible filet des mots. Solidaires, sans doute, nous le sommes des pires et des meilleurs de nos peuples. C'est un fait, nous le savons bien. Mais que ce soit un devoir qui nous lie, jusqu'à leurs injustices et leurs insanités, je le nie. Il ne s'agit point de médire de la solidarité. Personne, pense Clérambeau, n'en a plus passionnément que moi savouré la jouissance et célébré la grandeur. Il est bon, il est sain. Il est reposant et fort de plonger l'égoïsme solitaire, nu, raidi et glacé, dans le bain de confiance et d'offrande fraternelle qu'est l'âme collective. On se détend, on se donne, on respire. L'homme a besoin des autres et il se doit aux autres. mais il ne se doit pas tout entier, car que lui resterait-il pour Dieu? Il doit donner aux autres, mais pour qu'il donne, il faut qu'il ait, il faut qu'il soit. Or, comment serait-il s'ils se font avec les autres? Il y a bien des devoirs, mais le premier de tous est d'être et de rester soi, jusque dans le sacrifice et le don de soi. Le bain dans l'âme de tous ne saurait devenir sans danger un état permanent. Qu'on s'y trempe par hygiène, mais qu'on en sorte sous peine d'y laisser toute vigueur morale. À notre époque, on est, dès l'enfance, plongé, bon gré mal gré, dans la cuve démocratique. La société pense pour vous, sa morale veut pour vous, son état agit pour vous, sa mode et son opinion vous volent jusqu'à l'air qu'on respire, vous reniez votre souffle, votre cœur, votre lumière. Tu sers ce que tu méprises, tu mens dans tous tes gestes, tes paroles, tes pensées, tu abdiques, tu n'es plus. Le beau profit pour tous, si tous ont abdiqué. Au bénéfice de qui? De quoi? D'instincts aveugles ou de fripons? Est-ce un Dieu qui commande ou quelques charlatans qui font parler l'oracle? Levez le voile. Ce qui se cache derrière, regardez-le en face. La patrie, le grand mot, le beau mot. Le père, les bras enlacés des frères. Mais ce n'est pas ce que vous m'offrez, votre fausse patrie, un enclos, une fosse aux bêtes, des tranchées, des barrières, des barreaux de prison. Mes frères, où sont mes frères? Où sont ceux qui peinent dans l'univers? Cain, qu'en avez-vous fait? Je leur tends les bras. Un fleuve de sang m'en sépare. Dans ma propre nation, je ne suis plus qu'un instrument anonyme qui doit assassiner. Ma patrie, mais c'est vous qui l'a tuée. Ma patrie était la grande communauté des hommes. Vous l'avez saccagée. La pensée ni la liberté n'ont plus de toit en Europe. Je dois refaire ma maison, votre maison à tous, car vous n'en avez plus, la vôtre est un cachot. Comment ferai-je? Où chercher? Où m'abriter? Ils m'ont tout pris. Il n'est plus un pouce de la terre ni de l'esprit qui soit libre. Tous les sanctuaires de l'âme, l'art, la science, la religion, ils ont tout violé, ils ont tout asservi. Je suis seul et perdu. Je n'ai plus rien. Je tombe. Quand il eut tout arraché, il ne lui restait plus que son âme nue. Toute cette fin de nuit, elle se tint grelottante et transie. Mais en cette âme qui frissonnait, en cet être minuscule perdu dans l'univers, comme un de ces idoles que les peintres primitifs représentaient sortant de la bouche des mourants, une étincelle couvée. Dès l'aube commença de s'éveiller la flamme imperceptible que la lourde enveloppe des mensonges étouffait. Au souffle de l'air libre, elle se ralluma, et rien ne pouvait plus l'empêcher de grandir. Lente et grise journée qui suit cette agonie ou cet enfantement. Grand repos brisé, vaste silence inusité. Bien-être courbaturé du devoir accompli. Clérambeau, immobile et la tête appuyée au dossier de son fauteuil, rêvait, le corps fiévreux, le cœur lourd de souvenirs. Ses larmes coulaient sans y penser. Au dehors, s'éveillait la nature mélancolique aux derniers jours d'hiver, comme lui frissonnante et encore dépouillée. Mais sous la glace de l'air tremblait un feu nouveau. Il embrasera tout.
bientôt.